bonne soirée. À demain midi dans le Pit Stop, 14h, dans le retour.
Boulevard 102.1, la radio vivante. Qui vous fait vivre des trips à Vegas.
Wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister aux shows de vos bandes préférées.
Quelqu'un à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer d'excellentes minutes en compagnie de mon invité de ce soir, puisqu'il semble être extrêmement intéressant. Et c'est Pascal qui m'a présenté cet invité-là. Salut Pascal.
Salut Yannick.
Content que tu sois là avec moi. Je sais que tu tripes sur l'actualité internationale. Puis notre invité de ce soir est un ancien ambassadeur du Canada et professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, M. Ferry de Kharkov. Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci vous-même.
Ça va très, très bien. Vous avez passé pendant combien de temps dans ces pays-là, comme le Pakistan, l'Égypte, l'Iran? Vous avez été à Moscou aussi. Vous avez eu une belle carrière?
Oh, ben, c'est-à-dire que ça dépend comment on définit sa carrière. Mon premier poste était en Iran, effectivement, de 1974 à 1976. L'Iran était un pays absolument merveilleux à l'époque. Je regrette tous les jours combien la situation a changé. Même notre fils est né en Iran, alors... Les gens se demandent comment, accoucher en Iran, mais oui, accoucher en Iran, ça pouvait se faire aussi. Alors, c'était fascinant, le pays était merveilleux, le voyage était extraordinaire, le travail, comme j'étais le plus jeune en bas de l'échelle, je faisais les choses plutôt administratives et consulaires et des visas, mais le pays était extraordinaire, ça nous a permis, ma femme et moi, de voyager à travers l'Afghanistan. Et si vous voulez vous imaginer la situation à cette époque-là par rapport à maintenant, imaginez-vous, ma femme, 6 mois enceinte, on sillonne toute l'Afghanistan et le Pakistan. Essayez d'imaginer la même chose aujourd'hui, ce serait absolument totalement impossible. Alors, c'est assez fascinant quand même, comme petite opération intéressante de tourisme.
Pourquoi vous dites que ce serait carrément impossible pour nos auditeurs, en fait, là, la différence que vous voyez dans les années où vous avez été là-bas versus maintenant?
Je vous dirais que la liberté et la possibilité de converser avec les gens, il n'y avait pas eu Al-Qaïda, il n'y avait pas eu le terrorisme et tout ça. On se promenait dans ce merveilleux pays d'Afghanistan en toute liberté. Évidemment, l'avantage que nous avions, c'est que nous avions appris suffisamment de farsi pour pouvoir nous débrouiller en dari, qui est au fond l'équivalent de la langue iranienne, mais plus appauvri, ce qui fait qu'on pouvait converser. Et c'était tout à fait différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme enceinte étrangère qui se promenerait dans les rues de Kaboul, je ne pense pas que nos amis des talibans aimeraient ça beaucoup. Je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Je connais quelqu'un, une jeune femme qui a sillonné l'Afghanistan et qui a réussi à s'en sortir. Mais enfin, disons que ce n'est pas recommandé par rapport à mon époque, où pour nous, c'était absolument merveilleux. Je vous dis, avoir une femme enceinte de 6 mois et demi et aller absolument partout dans tout le pays, Bandé Amir, les fameux Bouddhas, l'époque des Bouddhas, etc. Non, c'était fascinant.
Comment on s'explique la situation actuelle au Moyen-Orient, M. de Kharkov? Comment on en est venu là, à ce conflit-là, entre les Israéliens et les gens qui sont tout autour?
Ah, je commence à comprendre pourquoi vous me demandiez peut-être 80 minutes plutôt que 40. Non, parce qu'il faut partir de l'historique de la déclaration Balfour, la création au fond de rendre aux Juifs qui avaient été martyrisés par Hitler, leur donner une place... Qu'il venait le retour à la terre promise, c'est-à-dire dans Israël. Et puis là, il y a eu la création, il y a eu l'UNSCOP qui a permis l'établissement de la montée de l'Aliya de Juifs en Israël. Et ça a été le début, évidemment, des conflits dans le monde arabe. Et au fond, cette question-là n'a jamais été résolue. Je n'irai pas dans chaque phase de l'histoire du conflit israélo-palestinien, qui a d'abord été évidemment un conflit entre les pays arabes et Israël, qui a réussi à s'en sortir, mais au fil des années, on n'a jamais créé un État palestinien. Le résultat étant que la tension a toujours été épouvantable, qu'il y a toujours eu des pays qui essayaient de défendre les droits des Palestiniens d'avoir un pays tel que c'était prévu par la résolution UNSCOP de 1947-48, et avec le résultat qu'on n'a jamais créé un État palestinien et que pendant ce temps-là, la colonisation israélienne s'est élargie. Et qu'il y a eu aussi, si on passe du contexte iranien, évidemment la conflagration entre les États-Unis et l'Iran depuis la chute du Shah. Alors là, on remonte évidemment dans le temps, l'Atalaï Ayatollah Khamenei qui prend le pouvoir en Iran et pour qui les États-Unis sont le grand Satan et l'Israël est le suppôt du Satan. Donc autrement dit, il y a cette espèce de rejet total de l'existence même d'Israël dans le territoire où elle se situe maintenant. Alors, on peut parler des différents conflits qui ont eu lieu, que ce soit la première, au fond, la Nakba, c'est-à-dire l'élimination pratiquement d'un très grand nombre de Palestiniens rejetés de leur pays où ils étaient depuis des millénaires. Ensuite, il y a eu évidemment la guerre des six jours, vous avez eu la guerre de 73, enfin, il y a... C'est, si vous voulez, l'histoire du conflit actuel n'est que la continuité de ce qui s'est passé au fil des années. Et visiblement, ce n'est pas en train de s'améliorer. Bon,
il y a une histoire de religion beaucoup, bon, au départ là-dedans. Et ça s'est rapidement transformé en une guerre de pouvoir et plutôt une guerre économique aussi. On a vu des alliances internationales, entre autres Israël et les États-Unis. Est-ce qu'on est un peu perdu maintenant? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clans qui s'affrontent pour justement avoir ce dit pouvoir?
C'est-à-dire que cette notion de pouvoir, c'est surtout que dans le contexte israélien s'implantant dans le monde arabe, a créé toutes ces explosions que je viens d'évoquer, mais avec toujours en arrière-plan certains irréductibles comme le Hamas, comme le Hezbollah, qui sont évidemment les envoyés de l'Iran. L'Iran a toujours décrié l'existence même d'Israël dans le contexte de Khomeini et de Khamenei aujourd'hui. Le Shah d'Iran, au contraire, s'entendait très bien avec Israël. Alors, c'est le point de départ. Mais le vrai point de départ sur le plan interne, c'est évidemment le fait que l'on n'a jamais créé un État palestinien et les conflagrations, particulièrement avec Gaza, sont la continuité, justement, la riposte de ce rejet de la création d'un État palestinien. Or, comme vous le savez, la communauté internationale a toujours demandé à Israël de créer cet État palestinien et malheureusement, les leaders depuis Yitzhak Rabin, qui a été un des seuls à vouloir le créer, malheureusement, il a été assassiné. Depuis, au fond, il n'y a pas eu de véritable leader israélien prêt à faire le sacrifice de la création d'un État palestinien. La seule chose qui a été créée, évidemment, c'est Gaza, qui a été ce qui a été donné, en fait... une petite parcelle de terrain, mais ça n'a jamais abouti à la création d'un État palestinien vivant en paix côte à côte avec Israël. Alors, c'est très compliqué de vous donner en tous les détails de l'histoire du monde palestinien face à Israël, mais si vous entendez Netanyahou, il se vante justement de n'avoir jamais permis la création d'un État palestinien. Or, l'État palestinien, ça fait partie des enjeux de l'enjeu de la communauté internationale. Biden, chaque fois qu'il parle de la Palestine, il dit qu'il faut qu'il y ait deux États qui vivent côte à côte, mais il n'y a absolument rien qui est fait pour exercer une pression sur les Israéliens pour permettre la création justement des États palestiniens en Cisjordanie.
Il semble y avoir beaucoup de haine entre les Palestiniens et les Israéliens. À quel point ces gens-là ne seront jamais capables de s'entendre? On voit des gens à Montréal qui proviennent soit d'Israël et de la Palestine. Ces gens-là sont prêts à se taper l'un sur l'autre constamment. Il y a de la religion, des religions différentes, et on a l'impression que ces gens-là ne seront jamais capables de s'entendre ensemble. Oui, il y a une guerre de territoire. Oui, ils ont des religions différentes. Pascal vous disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'économie en jeu dans ce monde-là, mais à la base, ces gens-là, avec leur religion, ne seront jamais capables de s'entendre. Ils semblent avoir une haine intense l'un envers l'autre.
Je vous dirais que la dimension religieuse a été mise en exergue parce que finalement, l'historique des deux religions se rapproche, ce sont les deux religions d'Abraham, et comme la religion catholique, je crois que la dimension religieuse a été, comme je le dis, mise en exergue de façon excessive. Ce n'est pas, au fond, ce n'est pas véritablement un conflit religieux. La religion sert de prête-nom à ce qui est un conflit territorial. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, on n'a pas créé d'État palestinien en Cisjordanie qui devait être l'endroit où cela existerait. C'est évidemment que pour les Israéliens, la Cisjordanie, ça représente la Judée, la Samarie historique, mais l'historique n'a pas beaucoup de place dans le contexte d'engagements qui ont été pris depuis 1900, enfin depuis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension religieuse, mais je pense que celle-là a été toujours mise en exergue beaucoup plus fort que ce n'est mérité. Mais c'est évident que les convictions sont différentes, mais je crois que c'est beaucoup plus un problème territorial qu'un problème religieux.
Vous avez été ambassadeur du Canada, M. de Kerckhove, pendant de nombreuses années dans plusieurs pays. Le Moyen-Orient, vous le connaissez, vous l'enseignez même à l'Université d'Ottawa. Est-ce que vous êtes capable de nous dire comment vous entrevoyez la suite des choses là-dedans? Est-ce que c'est une escalade que vous avez jamais vue auparavant et est-ce que vous avez des craintes, vous, en tant qu'observateur de cette scène-là?
J'ai énormément de craintes dans la mesure où, autant l'épisode d'avril où l'Iran avait envoyé toute une série de missiles et ça avait été terminé, on avait trouvé une accalmie, tandis que dans le contexte évidemment de l'assassinat de Nasrallah, les Iraniens se devaient de faire quelque chose et ils l'ont fait de façon quand même assez forcenée. Et la question, c'est quelle sera la riposte israélienne? Alors, est-ce que l'enjeu, c'est d'essayer de démolir ce que les Iraniens ont en termes nucléaires, c'est-à-dire là-bas, que ce soit Natanz, Fordos, les différents points où ils ont des capacités de création de l'arme nucléaire, ou bien est-ce que les Israéliens vont attaquer les champs pétroliers? Bref, on s'en va dans une flambée qui pourrait être terriblement dangereuse pour la paix dans le monde. Est-ce qu'on arrivera à contrôler et dire à Netanyahou de ne pas aller trop fort? Moi, je vois que Biden, pour l'instant, laisse passablement la main. Mais vous savez, les Américains ont toujours laissé la main aux Israéliens. Et il y a quelque chose qui est terriblement désagréable dans tout ça, c'est qu'au fond, il n'y a pas de véritable stratégie du côté américain, si ce n'est d'exprimer un soutien entier envers Israël. Et au fond, c'est Netanyahou qui dicte la conduite de cette affaire. Alors, comme il y a énormément de remous dans le gouvernement israélien, vous avez des Naftali Bennett qui sont l'ancien premier ministre, qui eux veulent profiter de l'occasion pour littéralement non seulement attaquer l'Iran, mais littéralement changer de régime en Iran et de véritablement s'attaquer aux objectifs nucléaires. Donc, si vous avez vraiment une dimension extrêmement dangereuse et vous n'avez pas beaucoup de capacité d'influencer Netanyahou qui va en finir avec le Hezbollah, qui veut essayer d'empêcher que l'Iran ne puisse jamais refaire ce genre d'attaque. Alors nous sommes dans une situation qui est quand même extrêmement dangereuse et qui pourrait véritablement échapper à tout contrôle.
En quoi les dommages collatéraux sont importants pour Israël ou encore la Palestine ou l'Iran ou le Liban?
C'est-à-dire les dommages collatéraux qui pourraient être infligés à Israël ou bien...
Pour les victimes innocentes des deux côtés, j'entendais un chef de guerre du côté d'Israël qui disait, parce qu'il se faisait reprocher qu'effectivement il y avait beaucoup de victimes innocentes dans le conflit, et ce que le chef de guerre israélien disait, c'est « vous ne comprenez pas, vous êtes à Montréal, vous êtes en sécurité, nous, on considère que c'est soit nos enfants qui vont se faire tuer ou soit les leurs, mais on veut se débarrasser des gens qui veulent venir nous faire du mal. » C'est que nous, on est en Occident, on est protégés, mais eux semblent entourés d'ennemis et sont un peu tannés de se faire constamment attaquer, là.
Bon, alors, deux, trois points là-dessus. Premièrement, le souvenir de la Shoah est fondamental. Le souvenir de millions de Juifs tués pendant la Deuxième Guerre mondiale est aberrant, est absolument fondamental et c'est absolument incontournable. Bon, alors que le 7 octobre est apparu pour beaucoup d'Israéliens comme une petite Shoah, mais aussi troublante, avec 1500 ou 1200 morts et dans des conditions épouvantables. C'est évident que pour ce pays qui est quand même toujours, se sent toujours assiégé dans cette espèce d'empire musulman qui l'entoure, et c'est là où la question religieuse joue un petit peu, il y a toujours cette angoisse-là. Alors donc, si vous voulez, sur le plan, c'est pas pour rien que Israël, en grande partie aidé par les États-Unis, est devenu la puissance majeure dans cette région. Il ne faut pas oublier que les Américains ont décidé, et ça a commencé avec Ronald Reagan qui a dit qu'il fallait faire le plus possible pour Israël, et tous les présidents américains en ont fait la même chose, ils ont dit il faut faire en sorte que Israël soit toujours en mesure de se défendre et de gagner une lutte contre l'ensemble des pays arabes si les pays arabes l'attaquaient. Alors ça vous donne évidemment un pays Israël d'une puissance militaire extraordinaire, pas seulement parce qu'ils sont équipés par les Américains, mais également par la qualité de leurs scientifiques, de leurs recherches. Je dis toujours qu'il y a plus de prix Nobel en Israël par kilomètre carré ou par habitant que dans n'importe quel autre pays. Alors Israël, si ce n'était pas tout le temps dans cette horreur qu'ils ont fait sans créer un État palestinien, Israël serait, comme les accords d'Abraham qui ont été négociés par Trump et continués par Joe Biden, aurait été au fond, j'allais dire, le fer de lance économique de la région. Et c'est pour ça que c'est tellement désastreux de voir que ces efforts qui ont été faits pour, au fond, établir de vraies relations diplomatiques, économiques et autres entre les pays arabes et Israël, maintenant sont mis en veilleuse. Vous savez qu'il y a cette grande négociation qui avait commencé avec l'Arabie saoudite. On a vu qu'il y a déjà eu des accords avec les Émirats, le Bahreïn, mais le vrai grand enjeu, c'est au fond une relation diplomatique réelle, profonde, entre l'Arabie saoudite et Israël. Ça, c'est l'enjeu à long terme, ce sur quoi travaillaient les Américains depuis très longtemps. Et malheureusement, la crise actuelle a mis tout ça de côté. Mais vous remarquerez que nos amis arabes sont extrêmement discrets. Il n'y a pas grand-chose, on dit évidemment, les Jordaniens déplorent ce qui se passe parce que les missiles passent au-dessus de leur tête à eux. Mais essentiellement, le monde arabe laisse faire, parce que le monde arabe n'aime pas beaucoup les gens de Gaza, n'aime pas beaucoup le Hamas. Et autrement dit, dans un certain sens, quand Israël tape sur le Hamas, les Arabes ne sont pas inquiets. Quand il y a un conflit avec l'Iran, c'est beaucoup plus compliqué. On sait que les relations entre les pays arabes et l'Iran ne sont jamais très très bonnes et que l'on ne voudrait pas qu'il y ait une conflagration. Mais pour l'instant, c'est très très discret du côté des pays arabes, ils laissent les Israéliens faire ce qu'ils veulent. Alors, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué que des réponses directes.
Tout le monde marche sur des œufs au Moyen-Orient en ce moment. Par rapport à la perception des États-Unis face à Israël, bon, il y avait certainement ce partenariat économique-là, militaire, mais surtout d'affaires à travers le temps qu'on voulait instaurer. Ça prend le bord un peu avec la façon dont c'est géré et puis les guerres, justement, entre les pays du Moyen-Orient. Mais la vision qu'Israël, entre autres, a de l'Occident, la vision que les pays arabes ont du Canada, des États-Unis. Comment est-ce que vous la décriveriez?
Alors, j'ai d'abord essayé de toucher à un point que vous avez soulevé, qui est d'après moi le plus important dans le contexte actuel. Dans quelle mesure est-ce que les États-Unis vont embarquer ou non s'il y avait effectivement une attaque israélienne massive sur l'Iran? Et je crois que s'il y a une chose que les Américains veulent éviter, c'est d'être entraînés dans une guerre contre l'Iran. Or, il y a beaucoup d'Israéliens, notamment Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, qui trouvent que c'est l'occasion rêvée d'en découdre une fois pour toutes avec l'Iran. Bon, alors ça, si vous voulez, c'est un volant. Le deuxième volet de cette affaire-là, c'est au fond l'influence excessive que Israël semble avoir sur la politique étrangère américaine. Il arrive très souvent que Biden n'obtienne même pas les renseignements qu'il voudrait de Netanyahou et que font Netanyahou, le consulte quand ils en ont besoin et fait à sa guise. Il y a une relation de dépendance qui est absolument ahurissante que le pays le plus puissant de la Terre finit par faire la politique que lui dicte Netanyahou et non pas l'inverse. Et c'est là où il y a un péril dans la demeure. Il y a un moment donné où les Américains vont devoir dire « bon, c'est très beau de supporter le monde juif et c'est tout à fait raisonnable et normal, surtout dans le contexte dans lequel on voit ce qui se passe, mais il y a un moment donné où est-ce que véritablement la politique étrangère américaine doit être totalement inféodée aux objectifs et aux désirs des Israéliens ?» Et ça, c'est une question à laquelle il va falloir un jour que les représentants américains répondent. Mais il y a Mershmeyer, par exemple, qui a écrit un livre là-dessus qui explique que véritablement l'inféodation américaine aux desiderata israélien est un peu contre nature pour le pays le plus puissant de la Terre.
Quel rôle le Canada doit jouer dans l'aventure entre Israël et les autres pays?
Le Canada, depuis quelques années, a fait très peu au niveau d'initiatives en matière de politique étrangère. Nous suivons les Américains, nous écoutons le G7. Mais il n'y a pas très, très peu d'influence canadienne là-dedans. Dans le temps, nous avions fait beaucoup en matière de réfugiés, parce que le problème des réfugiés remonte littéralement, évidemment, à la Nakba, c'est-à-dire à l'expulsion de 750 000 Palestiniens hors du territoire de la Palestine au moment de la guerre, dans les années, au tout début, en 47-48. Il y a eu l'affaire des réfugiés qui a été menée très bien par le Canada, mais nous n'avons pratiquement aucun rôle à l'heure actuelle dans ce contexte-là, si ce n'est de soutenir ce que le G7 dit, comme il vient d'avoir une réunion où on s'est entendu que, évidemment, Israël avait le droit de riposte, mais qu'elle devait être tempérée, modérée et pas excessive, de façon à ne pas arriver à une conflagration. Nous sommes des suiveux et nous n'avons pas beaucoup d'initiatives et beaucoup d'imagination.
Par contre, on ne se gêne pas du côté de l'administration Trudeau à envoyer de l'argent en Ukraine, exemple, pour diverses choses, aider la population ukrainienne. Là, on a envoyé de l'argent en Israël aussi. Est-ce que vous, en tant qu'ancien ambassadeur du Canada, est-ce que l'argent qu'on envoie, est-ce que l'argent que les Canadiens envoient, c'est toujours utilisé à bon escient ou vous avez eu vent que parfois l'argent est un peu détourné pour les gens qui prenaient de grandes décisions dans ces pays-là?
Je commençais par vous dire que l'aide à l'Ukraine est une aide surtout militaire, dans la mesure où on veut les aider à se défendre contre la Russie. Il y a certainement des pertes, parce qu'on sait qu'on parle de corruption en Ukraine, il y a certainement des pertes, mais d'une façon plus générale, je pense que l'aide générale de l'Occident à l'Ukraine est généralement bien utilisée. Mais qu'il y ait des failles dans le système, ça c'est tout à fait possible. Mais d'une façon générale, je dirais que dans nos engagements dans ce type-là, je crois que nous faisons bien, nous livrons du matériel, nous livrons des munitions pour l'Ukraine. Autrement dit, les munitions, ça ne se vend pas beaucoup sur la place publique, donc c'est plus difficile. Ce qui est plus tentant, c'est quand il y a des transmissions de fonds. Mais je crois qu'il y a un mécanisme de contrôle assez serré, parce qu'on veut certainement que chaque sou qu'on donne à l'Ukraine soit positif et aide à la victoire éventuelle, si jamais victoire il y avait.
Par rapport aux impacts économiques de tout ça, comment ça pourrait se répercuter, par exemple, ici, parce qu'on sait, bon, puits de pétrole assez important du côté du Moyen-Orient, ce qui fait en sorte qu'on est capable de s'approvisionner en plusieurs choses. Il y a des besoins matériels que l'on a ici. On est assurément dépendant de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Quels sont les impacts économiques de ces conflits-là?
Je dirais que c'est assez intéressant de voir que le cours du baril de pétrole ne semble pas avoir monté de façon excessive, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit la première manifestation. Maintenant, je ne dis pas que ça ne pourrait pas se produire rapidement s'il y avait tout à coup une attaque contre les champs pétroliers en Iran, mais je crois que sur le plan économique, je dirais que le conflit en Ukraine a plus d'impact sur le plan de l'économie internationale à cause de la livraison de céréales et d'autres éléments. Tandis que dans le contexte de l'Israël, je trouve qu'il n'y a pas encore eu beaucoup d'impact. Je suis désolé, coup de téléphone. Bon. Ça, c'est ça le problème des temps de monde.
Effectivement. Monsieur Ferry de Kharkov, vous avez été un ancien ambassadeur du Canada. Vous avez fait plusieurs pays. Vous avez participé activement à des guerres en tant qu'ambassadeur du Canada. Est-ce que vous avez été dans des pays où ça brassait énormément? Je pense entre autres à Moscou, où vous avez été ministre.
Je vous dirais que je n'ai pas contribué à la guerre ou quoi que ce soit à la Tchétchénie, mais c'est évident que la situation sécuritaire à Moscou pendant que nous y vivions n'était pas très bonne. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que l'Union soviétique s'était effondrée et que le système économique russe s'est complètement effondré. Au point qu'il fallait faire très attention plutôt à des vols qui pouvaient se passer régulièrement. Mais je ne parle pas de dimension conflictuelle qui m'est affectée pendant mes cours. La seule dimension conflictuelle que je puis vous rapporter, c'est que j'étais quand même à 19 ans chef d'un peloton de chars, c'est-à-dire 5 chars d'assaut de 50 tonnes chacun. Et ça, c'était pendant mon service militaire que j'ai fait pendant un peu plus de 18 mois. Mais ça n'a absolument rien à voir avec Moscou, ni avec d'autres éléments de ce dont on discute. Mais c'est simplement pour vous dire que les questions militaires, je les connais relativement bien. J'ai beaucoup écrit sur ces questions-là parce que j'ai quand même une certaine expérience.
Est-ce que vous trouvez que le rôle que vous avez eu à l'international est de moins en moins joué et sinon pas nécessairement de la bonne manière maintenant?
Vous voulez parler de la diplomatie?
Absolument.
Alors, c'est assez curieux parce qu'au fond, quand on parle du conflit israélo actuel, irano, etc., je dirais que la diplomatie n'a pas eu beaucoup de place, mais je dirais que beaucoup plus important, il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune pensée à long terme, c'est au coup par coup. Alors la diplomatie, quand on voit par exemple aux Nations Unies, qui ne sert pratiquement à rien dans ce contexte-là, vous avez le veto américain, vous avez les mesures exigés qui ne sont jamais adoptés. Vous avez les vétos américains dès qu'il s'agit de condamner Israël. La diplomatie multilatérale en a pris un terrible coup. Et sur le plan diplomatique bilatéral, à part le dialogue que j'expose en ce qui concerne les États-Unis et Israël, bon, ça c'est un dialogue qui est très serré, mais comme je vous dis, qui n'est même pas à la hauteur de ce que devrait être le patron par rapport aux citoyens israéliens. Non, il y a un manque énorme et c'est au fond, je dirais que c'est l'effondrement du système multilatéral à partir du moment où vous avez des grandes puissances comme la Chine et comme la Russie qui veulent transformer le système multilatéral et cesser de l'inféoder à la vision de 1945 et de la conférence de San Francisco et la dépendance à l'égard des États-Unis.
Quel est le rôle des ambassadeurs canadiens à travers le monde?
Ah, écoutez, il y a plusieurs rôles. D'abord, la représentation des intérêts politiques du Canada, que ce soit sur des questions justement comme ce dont on parle maintenant. Vous avez également, évidemment, sur le plan commercial et économique, moi j'ai toujours considéré que j'étais aussi bien un marchand de biens et services canadiens que j'étais un marchand de la politique étrangère canadienne. Je pense que la diplomatie reste... Enfin, la diplomatie canadienne reste quand même terriblement importante dans la mesure où nous sommes quand même très dépendants du monde de l'exportation et des importations. Nous sommes aussi un pays très riche. On oublie toujours que sur le plan, il y a certaines statistiques qui montrent que le Canada, au fond, est un des pays les plus riches du monde. Mais nous avons des grandes faiblesses. Nous sommes très dépendants de nos exportations, non seulement vers les États-Unis, mais comme par exemple quand la Chine se fâche contre nous et que tout à coup il y a certaines denrées qui n'importent plus, ça nous cause énormément de problèmes. Alors la diplomatie économique canadienne, ça a toujours été pour moi un des éléments principaux. Comme par exemple, il y a une compagnie canadienne qui était dans de gros troubles au Pakistan, je ne donnerai pas son nom, mais c'était une compagnie importante canadienne, et j'ai passé, sur les 3 ans du Pakistan, j'ai dû au moins passer par 3 différentes étapes pour régler cette affaire-là au profit de la compagnie canadienne, sinon c'était une perte majeure. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on fait et on essaie de ne pas en parler trop sur la place publique parce que ce sont quand même des questions commerciales confidentielles, mais le rôle des ambassadeurs est particulièrement important dans cette question-là. Mais il y a également toute la question diplomatique, la question de lien avec ce qu'on appelle le like-minded, c'est-à-dire cette réflexion que l'on a ensemble sur les problèmes qui se posent sur la Terre. Et c'est de voir ça avec une vision comparative. Quand vous parlez avec un Australien, ce n'est pas la même chose que quand vous parlez à un Parisien.
Oui. Monsieur Ferry de Kharkov, vous avez été ambassadeur longtemps. J'imagine que vous êtes un fan des films d'Hollywood. Quand il y a des films d'espionnage, monsieur de Kharkov, puis il y a des ambassades qui sont le théâtre de choses spéciales qui se passent, est-ce que c'est la réalité, ça, pour un ambassadeur canadien? Y a-t-il déjà eu des choses dans votre ambassade qui faisaient en sorte que, j'ai des espions à l'intérieur de l'ambassade? Ça se passe-tu comme ça dans la vraie vie?
Dans la vraie vie, vous pouvez toujours estimer que dans certains pays, il y a des gens qui aimeraient beaucoup savoir et vous observer et découvrir vos soi-disant secrets. C'est certain qu'en Russie, ouais, même si l'Union soviétique était déjà tombée, il y avait une continuité dans l'espionnage et nous étions extrêmement prudents quand nous vivions à Moscou. Nous ne laissions certainement pas un bout de papier traîner. Et non, c'est la bagatelle, mais je crois que la notion d'espionnage de nos jours reste tout aussi valable qu'elle n'était dans le temps. Après tout, ce n'est pas pour rien que l'Iran a voulu démolir en tout premier lieu le service secret d'espionnage israélien, qui ont d'ailleurs été légèrement frappés par une des bombes israéliennes. Non, l'espionnage est une activité qui se poursuit, mais que les diplomates ne font pas. Mais les diplomates doivent aussi être extrêmement prudents dans leur communication, de plus en plus.
Est-ce que votre vie, M. de Kharkov, a déjà été en danger en tant qu'ambassadeur du Canada?
Je ne me suis jamais senti véritablement menacé. Je vous dirais que peut-être qu'à Moscou, à l'époque, c'était davantage la menace de gens qui tout à coup étaient devenus profondément appauvris par la transformation de l'Union soviétique en Russie, ouais, et que le vol était permanent et constant. Et ça que l'on a essayé de m'arrêter. Mais j'ai déjà, oui, en Égypte, pendant effectivement le printemps arabe, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas avancé, j'étais obligé de reculer, parce qu'on m'avait dit que si j'essayais de traverser le pont sur le Nil, que les bandits qui s'en donnaient à cœur joie au moment du printemps arabe me sortiraient de la voiture, me jetteraient dans l'eau. Alors, j'ai fait demi-tour. C'est la première fois de ma vie où j'ai fait demi-tour.
Est-ce que vous pensez que, maintenant vous êtes en sécurité, est-ce que vous pensez que certaines diplomaties ont hâte que justement les ambassadeurs et autres de renom des dernières décennies qui ont travaillé dans un contexte qui était beaucoup plus sérieux et qui avait une stratégie derrière votre présence dans certains pays, les moyens y étaient là aussi dans le journaliste international, même chose. Est-ce que vous pensez qu'on a hâte que ces ambassadeurs-là travaillent comme ils ont travaillé dans les dernières décennies?
Je vous dirais que si je pense à tous mes anciens collègues ou mes collègues actuels par rapport à moi qui suis à la retraite depuis quand même pas mal d'années, je trouve que leur travail reste à la hauteur des aspirations, certainement dans les domaines économiques et commerciaux. Je crois qu'en termes de diplomatie, comme nous n'avons pas pour l'instant un gouvernement qui est particulièrement acharné à jouer un rôle sur la scène internationale en dehors de ce qu'il fait dans les G7 et les G20, mais il n'y a pas une très forte présence canadienne sur la scène internationale sur le plan diplomatique. Et je crois que ça va dépendre d'un régime à l'autre. Vous savez, moi j'ai travaillé pour différents premiers ministres. Il y en a qui étaient beaucoup plus engagés sur la scène internationale que d'autres. Et je trouve que notre premier ministre actuellement est beaucoup plus focusé sur l'intérieur et n'a pas particulièrement d'idées précises sur quoi faire sur la scène internationale. Il suit calmement et gentiment ce que les Américains font. Et puis, on a de temps en temps de bonnes concertations avec les Européens, mais ça ne va pas beaucoup au-delà de cela.
Mais ce serait-tu trop dangereux d'avoir des gens comme vous à l'international maintenant?
Non. Pourquoi que ce serait dangereux? Je ferais mon boulot comme on me le dit.
Parce qu'on a fermé des ambassades dans les dernières années.
J'aurais probablement plus d'initiatives parce que j'ai toujours eu des idées.
Ouais. Il va possiblement y avoir un changement de garde aux États-Unis. Bon, les démocrates sont en place. Joe Biden qui avait donné ordre aux Américains qui sont près du... ben, en fait, d'arrêter tout missile qui voulait toucher Israël. S'il y a un changement de garde, et là, c'est les républicains qui prennent d'assaut les États-Unis, puis Donald Trump est mis au pouvoir, est-ce que ça pourrait envenimer le conflit ou peut-être justement empêcher qu'il y ait un conflit? Parce que Donald Trump est plus vu comme étant un « deal maker ». Plutôt que comme les anciens présidents, eux, bon, c'était pas nécessairement des faiseurs de paix, là.
Mais il est impulsif, pareil.
Ma boule de cristal en ce qui concerne Trump est évidemment aussi vague que Trump lui-même. Mais je vous dirais qu'en ce qui concerne la relation avec Israël, vous avez remarqué qu'il y a eu un contact qui a quand même été établi entre Trump et Netanyahou, qui est allé le voir à Mar-a-Lago. Et ça veut dire quand même que l'entente qui existait au moment où Trump était président est en train de se resserrer. Alors, je ne suis pas très, très inquiet. Je crois que si Trump venait au pouvoir, il renforcerait sa coopération avec Israël. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est Trump d'une façon générale sur tous les plans et pas simplement pour une question de politique étrangère. Quand il dit, par exemple, qu'en une journée, il aura réglé le problème du créneau russe, c'est très simple. Il voudra simplement imposer que la partie qui a été envahie par la Russie reste russe et que le reste reste ukrainien. Il n'y a pas beaucoup d'imagination là-dedans. I can do it in 24 hours. On peut faire ça en 3 minutes si c'est ça la solution, sauf que les Ukrainiens n'en voudront pas.
OK. Donc, ça ne changera pas grand-chose s'il y a un changement de garde actuellement à la tête des États-Unis?
Je pense qu'il y aura une beaucoup très grande anxiété à l'échelle de la planète. Mais ça ne changera pas nécessairement les choses en ce qui concerne ce conflit dont on parle. Je vous dirais qu'il y a une très grande inquiétude dans toutes les chancelleries du monde. Est-ce que, par exemple, ce que Trump voulait faire il y a plus de 4 ans en ce qui concerne l'OTAN, est-ce que là, véritablement, il veut se désolidariser de l'OTAN? Là, ça transformerait profondément le système international. Il ne faut pas oublier que l'OTAN est la seule alliance au monde qui existe, qui a à la fois les principes et en même temps l'armement qui le soutient. Alors si tout à coup Trump décidait, comme il l'avait annoncé, de retirer les États-Unis de l'OTAN, de ne plus accepter la notion un pour un pour tous et tous pour un, ça transformerait profondément le système international et ça mettrait en cause effectivement les pays occidentaux les plus proches de l'Union soviétique, enfin de la Russie.
Justement, il y a une redéfinition géopolitique quand même intense et énorme à travers le monde depuis quelques années maintenant. Il y en a qui en ont profité pour prendre de l'expansion économique, pour également avoir des discussions entre eux, puis créer de nouvelles alliances qui ne sont pas celles de l'OTAN si on vient qu'à défragmenter en fait ces alliances-là qui ont été créées entre autres après les premières guerres mondiales. Est-ce qu'il y aurait peut-être des pays qui travailleraient plus en solo pour la suite des choses? Est-ce que ça pourrait avoir des impacts quand même importants à souligner?
Je vous dirais que les points chauds sont ceux qui déterminent la création d'alliances. Vous remarquerez qu'en ce qui concerne Taïwan et en ce qui concerne la Corée du Nord, il y a quand même un resserrement des liens dans le Pacifique sous l'égide des États-Unis et même l'Inde et l'Australie. Et les pays, je crois qu'il y a un resserrement sur ce plan-là qui va au-delà de ANSUS et les différentes organisations plus subalternes. Je crois que le monde se prépare éventuellement à est-ce que Xi Jinping, oui ou non, va-t-il prendre Taïwan ou non. Et je crois que c'est l'une des deux grandes questions. Les trois questions, au fond, sur la planète à l'heure actuelle, c'est évidemment le conflit israélo-palestinien dans toutes ses facettes, le conflit en Ukraine et la menace pour Taïwan. Le reste du monde, que ce soit le Soudan, l'Afrique, etc., ça, ce sont des conflits qui sont épouvantables. Surtout, ne me faites pas dire le contraire. L'horreur de ce qui se passe au Soudan est terrible, mais n'a pas d'expansion régionale au-delà de son territoire. Alors, ce sont des questions qui s'abordent de façon très différente.
Est-ce qu'on pourrait avoir des impacts au Canada et aux États-Unis par rapport... je pense qu'il vous reste quelques secondes. Là. Oui. On va vous laisser partir. Est-ce qu'on pourrait avoir des impacts au Canada, aux États-Unis, avec l'aide qu'on apporte à Israël? Est-ce que certaines personnes mal intentionnées pourraient nous faire payer le prix pour essayer d'attirer l'attention sur eux?
Je ne pense pas que nous ayons une coopération tellement intense avec Israël, certainement pas sur le plan militaire, puisqu'il y a même certaines mesures que nous avons annulées à cause de ce conflit-là. Mais c'est très clair qu'Israël est un partenaire économique de grande qualité et que nous n'allons certainement pas cesser de transiger avec Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'avenir, on verra. Mais je pense qu'il y a, d'une façon générale, un engagement canadien de soutien à la légitimité d'Israël. Et en même temps, nous essayons quand même de nous entendre avec les pays arabes. Alors, ce n'est pas mi-chaud, mi-froid, c'est essayer d'avoir une politique équilibrée. Et qui ne... Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, nous représentons quand même un pays absolument unique au monde en termes de variété de population. Et nous avons évidemment des ressortissants de tous ces pays-là chez nous. Et Dieu merci, pour l'instant, nous arrivons quand même à maintenir un semblant d'équilibre. C'est vrai que les événements en Israël ont créé énormément de remous, notamment dans les universités, ouais. Et que nous commençons lentement à nous en remettre. Donc, il y a toujours un risque d'escalade, il y a toujours un risque d'explosion. Mais je crois que d'une façon générale, nous sommes peut-être plus sensés que nos amis du Sud.
Ferry Descarcoves, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je souhaite de passer une belle fin de soirée, M. Descarcoves.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Bye-bye. Tellement intéressant, cette discussion-là, avec un ancien ambassadeur du Canada et professeur maintenant à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. C'est un gars qui a roulé sa bosse longtemps. Ouais. Il était au Pakistan, en Égypte, il était à Moscou aussi, en Iran. Il en a du millage.
Des rôles qu'on voit de moins en moins dans le monde. Oui. Ma question à savoir, est-ce que c'est rendu plus dangereux? On ferme des ambassades à travers le temps, à travers les années. On a de moins en moins de services journalistiques à travers le monde. Pense à la Chine, par exemple, où Jean-François Lépine a travaillé pendant de nombreuses années en tant qu'ambassadeur, puis également en tant que journaliste à travers le monde. On avait des informateurs de ce qui se passait dans le pays. Maintenant, on redore l'image et on présente le pays avec, par exemple, des gens qui sont engagés pour faire bien valoir certaines choses. Puis on manipule l'information qui sort et qui est même à l'intérieur de ces pays-là auprès des citoyens. C'est d'une complexité puis c'est d'une particularité sincère. On a de moins en moins d'argent donné à ces envoyés spéciaux-là qui nous rapportaient ce qui se passait. Je pense à Marie-Ève Bédard, la journaliste internationale qui faisait un job hors pair qui est plus à un endroit, qui est maintenant, bon, envoyée une fois de temps en temps partout, mais ça ne te permet pas d'avoir le pouls d'une population, d'avoir le pouls d'une information qui vieillit. Puis question philosophique, Yannick.
Oh boy, c'est à moi que tu poses cette question-là, ouais. Des questions philosophiques.
Ouais,
peux-tu prendre deux, trois respirs?
Absolument, tu répondras dans le temps que tu souhaites.
Non, c'est juste pour oxygéner mon cerveau.
Pour être prêt à répondre, mais tu sais, on est occidentaux. Notre valeur démocratique, notre valeur de politique, notre valeur sociale, nos filets sociaux qu'on a instaurés, on est nés là-dedans. Notre vision du monde est qu'on devrait avoir une démocratie, que les droits humains priment, qu'on a un droit à l'expression, à la liberté. Pour plusieurs pays qui se sont alliés à travers le temps, qui tentent de s'imposer à travers le monde, mais on est plus dans une dictature. Hein? On est plus dans un endroit où la politique, finalement, est une absolution, est une objection particulière à tout ce qui est mode de vie occidental. Finalement, qui a la meilleure façon de faire? Parce qu'au moment où...
En fait, il faut enlever nos lunettes.
Personnel, mais, ben oui. Mais en même temps, je veux dire, j'ai de la misère à aller dans le camp où la dictature est, où elle est imposée, c'est la meilleure façon de faire politiquement parlant, mais
ces
pays-là prennent l'expansion. Non!
Ils ne savent pas, sont nés là-dedans, sont endoctrinés là-dedans. Il y a de la grosse religion, oui, au travers de ça. On te raconte que tes ancêtres ont été tués par, mm-hmm, les méchants qui sont l'autre côté de la barrière. Donc, nécessairement, ces gens-là sont élevés dans la haine et viennent à détester les autres qui sont de l'autre, oui, côté. Moi, j'ai tout compris. C'est sûr que ça n'a pas été facile pour Patrick Lagacé parce qu'il s'est fait détruire par un gars qui, lui, savait exactement ce qu'il était en train de mentionner. Il était directement à Israël, puis il disait, vous comprenez pas, vous dites qu'on tue les enfants de l'autre côté, mais c'est nous ou eux. Vous, vous êtes à Montréal, assis les fesses sur votre chaise, mais nous, on est directement en dessous des missiles, puis on est constamment menacés, puis il y a des gens qui sont venus chez nous, enlever des gens, violer des femmes, puis ils nous les ont ramenés en morceaux ou encore brûlés. Nous, on est là, on dit « Christ, ça n'a pas de bon sens. » Mais eux autres, ils vivent.
Puis il y a une rage qui a augmenté à travers ça, parce que c'est sûr qu'il y a un pan très émotif. Hein? Mais si on remonte au début du conflit, puis si on peut sortir du Moyen-Orient quand même par les bases d'eux, mais qu'on s'en va, mettons, dans des guerres de territoire comme on voit Russie-Ukraine, qui est un autre début de conflit, on s'est à se demander si ces pays-là prennent de l'expansion politiquement parlant, puis imposent leur façon de faire à travers le temps parce que, ben, ils vont avoir réussi à avoir une certaine prestance mondiale. Ils vont chercher à imposer, veut, veut pas, leur vision. Mais quelle est la meilleure? Nous, on va toujours se battre par rapport à notre vision des choses. Mmh. Eux vont toujours se battre par rapport à leur vision des choses.
On n'est pas pour la guerre, mais on comprend que dans certains cas, comme c'est le cas en ce moment entre Israël puis la Palestine ou encore le Hezbollah, ou là l'Iran qui vient de rentrer dans le conflit aussi, tu sais, on est ailleurs, puis on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, les missiles qui tombent sur des immeubles, mais là, tu comprends que c'est les gens du Hezbollah qui se cachent dans certains endroits, en dessous des hôpitaux, pour être sûr et certain qu'on ne leur tire pas des missiles dessus. Ça fait des dommages collatéraux. On se dit, ça n'a pas de bon sens. C'est pas normal que des femmes et des enfants puis des gens innocents soient touchés par le conflit. Mais eux sont directement dans Poutine, puis ils disent, on ne peut pas faire autrement parce que sinon, c'est nous qui allons se faire toucher.
La question philosophique en arrière de ça, c'est de se dire quand est-ce ça. Ben oui,
il
n'y
a pas de réponse facile.
Est-ce qu'on doit intervenir en tant qu'Occidentaux là-dedans? Là, il y a la partie économique là, pour arrêter les choses. Est-ce que l'OTAN doit rester forte face à ce genre de truc-là parce que ça n'arrêtera jamais? On entend la riposte. On entend Israël dire, ben nous, on a riposté à ce que vous avez fait, soit éliminer des gens par explosif.
Puis de l'autre bord, ils ripostent.
Puis là, si vous ripostez, on va riposter. Puis en fait, ils vont juste vouloir se détruire, puis jusqu'à la limite où ils vont être capables de le faire avec leurs alliés. Et ça va créer d'autres conflits. C'est ce qu'on voit, là. C'est comme des groupuscules de conflits qui pètent un petit peu partout parce que finalement, t'as touché un peu trop chez nous, t'as touché nos alliés. À quel moment ça arrête? Puis la politique de qui va primer sur qui?
Moi, je foutrais le bordel là-dedans. Ce serait terminé. Ce serait America first, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis puis le Mexique. Puis on se protège ensemble, puis on est capable d'avoir des ressources en masse pour être capable d'être autonome.
Des belles lunettes roses, hein?
Oui, mais je pense qu'on en est rendu là à un moment donné parce que moi, à partir du moment où il y a de la religion là-dedans, puis il l'a mentionné, là, les Israéliens se souviennent de la Shoah, là, c'est quand même pas rien. Là. À partir du moment où il y a de la religion puis des crimes qui ont été commis puis des gens qui se pardonneront jamais, moi, je décroche de ça. Là. C'est pas à mes enfants de payer pour ça. C'est pas à mes arrière-petits-enfants.
T'as compris que la religion, maintenant, était plus... sur quoi on s'appuie pour se faire la guerre, mais que c'est pas vraiment le point principal.
Je suis d'accord avec toi. Si les gens à Montréal se taperaient pas sa gueule l'un sur l'autre...
Ben, en fait, là, c'est une question identitaire.
C'est des racistes, là, ben, l'un envers l'autre.
C'est une question identitaire. C'est même plus par rapport à la religion. C'est vous êtes en train de détruire nos familles, notre pays. Fait qu'on vous haït pour ça, mais c'est même pas religion. Là. C'est une question émotive de destruction de personnel. Puis au-delà d'eux, ben, c'est la question économique, au-delà de deux questions de ressources, au-delà de deux questions de territoire, puis après, bon, on va aller dans les bases de ce conflit-là, peut-être pour Palestine et Israël, et c'est l'enjeu du territoire, mais tu sais, de vouloir se rallier avec le Mexique, les États-Unis, il y a déjà des divisions au sein des pays, puis je parle souvent dans Marceau le Midi du leadership, à quel point c'est important, et de diviser les citoyens d'un pays par de la politique, après on se rend compte des impacts que ça peut avoir à plus long terme.
Mais on ne peut pas avoir de débat parce que je suis entièrement d'accord avec toi, mais si on parle d'une solution, ce serait de cesser de s'occuper de ce qui se passe ailleurs et d'essayer de régler au départ les problèmes qui sont chez nous. T'sais, au Mexique, ils en ont des problèmes bien en masse. Aux États-Unis, ils en ont des problèmes bien en masse, puis nous autres aussi. Puis la population s'appauvrit, la classe moyenne s'appauvrit. Et là, parce qu'il y a des conflits dans le monde, on prend de l'argent, des Canadiens, des Américains, puis on envoie ça ailleurs alors qu'on a tellement de choses à régler. Je pense qu'on est rendu là, de cesser de s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Peut-être que Donald Trump, pour certains, il l'aime pas, mais je veux dire, à mes yeux, à moi, c'est comme le gars où il est tellement imprévisible que Poutine est un peu hésitant à faire chier les États-Unis, fait qu'il n'y a pas le choix de l'écouter une fois de temps en temps. Même affaire pour Rocketman à l'autre bout où il dit « Attends un peu, parce que moi, je suis considéré comme un fou, là, mais l'autre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire si je fais encore quelque chose. » Son imprévisibilité protège les États-Unis.
On a vu d'autres présidents protéger les États-Unis sans impulsivité. Moi, la bombe à retardement qu'est Donald Trump, je l'apprécie moins. J'aime bien son bras de fer en termes de discussion, par exemple, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un que je voudrais qu'il travaille seul dans le conflit actuel. Puis eux aussi, je veux dire, ils ont leur propre subdivision puis division à l'intérieur du pays, mais ils ont assurément leur armée présente dans bien des pays. Puis c'est une question de stratégie. Si ça s'envenime, ça vient qu'à toucher ton pays, il faut que tu sois prêt, il faut que tu aies créé tes alliances.
Il faut que tu aies,
en conséquence, travaillé pour y être. Et malheureusement, ouais. Ben, ça coûte de l'argent.
Créer des alliances, mais c'est parce que l'argent, ça vient pas des politiciens, ça vient de notre argent,
ouais.
À nous autres.
On a des enveloppes différentes et des enveloppes budgétaires pour tout, hein?
Ouais.
Comme à la maison, Yannick.
C'est ce qu'il dit.
C'est juste qu'il en reste moins de plus en plus.
Oui, touchez pas à ma Coors Light. Hey, on va faire une courte pause. On revient avec Pascal CV. On parle d'actualité internationale. Donc, vous comprendrez que Pascal ne pouvait pas me faire face à ça. Un manque de confiance, je pense, de la part de ma collègue.
Franchement.
Ouais, on revient. Marceau, le soir. Le week-end.
week-end NHL. Cette fin de semaine, dans le boulevard du Rock et dans le volume à planche, on célèbre la sortie de NHL 2025 en jouant le meilleur des trames sonores du jeu légendaire. À vos manettes et laissez la radio ouverte. Le week-end NHL. It's in the game. À Boulevard 102.1.
Les représentants hypothécaires de Desjardins sont disponibles où et quand vous le voulez. Ils se déplacent à votre convenance 7 jours sur 7. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/représentants.
En 1949, les véhicules étaient loin d'être parfaits. 75 ans plus tard, ils ne sont pas encore parfaits. Mais heureusement, pour les réparer, les entretenir et bien les chausser, il y a des harnais. Et avec l'offre de paiement sur 6 mois sans frais ni intérêt, c'est juste parfait.
Jusqu'au 20 décembre, obtenez une remise allant jusqu'à 100$ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prise de rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
La saison bat son plein au centre de glace Intact Assurance.
La programmation libre de patinage, de course et de marche est offerte à tous les jours.
Consultez l'horaire et créez votre compte à centrededeglace.ca.
Allez-y, c'est gratuit.
Gratuit pour les résidents de l'agglomération, à coût modique pour les visiteurs.
Tournez à droite. J'ai dit à droite.
Chérie, trouves-tu que l'auto est un peu bête ces temps-ci?
L'autre droite.
Ben, depuis que j'ai planifié son remisage dans sa clique, j'ai l'impression que...
Tu penses qu'elle sait qu'elle va être remisée?
Ben...
Ce que je sais, c'est que vous venez de rater la sortie.
Votre voiture va s'en remettre. Faites votre remisage par anticipation dans sa clique pour fixer une date à l'avance et avoir l'esprit tranquille. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Vous êtes propriétaire d'une piscine en béton et elle a besoin d'amour? Les experts de chez Piscine LMJ se chargent de la restauration, du décapage au jet de sable, de la peinture, de la réparation du béton et mécanique. Piscine LMJ fabrique également des piscines neuves entièrement en béton sans toile. Vous êtes entrepreneur, architecte ou paysagiste et vous avez un projet incluant une piscine sur mesure? Piscine LMJ peut vous accompagner et vous conseiller. Piscine LMJ, le plaisir de construire. LMJinc.ca.
Du 3 au 6 octobre, c'est les Coupes du monde UCI de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. Les 600 meilleurs athlètes au monde affronteront les parcours du Mont-Sainte-Anne dans les disciplines de descente, de cross-country sur circuit court et olympique. Accès gratuit aux compétitions et aux soirées d'après-course présentées par Boréal avec les spectacles de Command de bord, Jackson Goldstone, Bonanza et plus. Les Coupes du monde UCI, le rendez-vous sportif à ne pas manquer. Visitez Coupe mtbmsa.com pour plus de détails.
Salut, c'est Martin. Comme vous le savez, je suis un grand fan de l'usine. Leurs meubles, beaux, design ultra confortable. Option de paiement mensuelle, sans stress, maintenant disponible. Offrez-vous enfin le divan, la table ou le lit de vos rêves sans compromis. Alors, qu'attendez-vous? Transformez votre maison avec l'usine.
Parce qu'en 2024, un ordinateur, c'est pas mal plus commun qu'un Walkman jaune.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
On est avec Pascal CV ce soir pour parler d'actualité internationale. Tantôt, on jasait avec Ferry de Kharkov, qui est ancien ambassadeur du Canada et professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. J'aurais aimé que les gens nous entendent nous brancher avec M. de Kharkov vers 17h50 ce soir, parce que ça a été long avant qu'on fasse le branchement avec M. de Kharkov. Mais on avait affaire à une génération qui, pour lui, la technologie, oui. C'est pas évident.
Je trouvais qu'on avait trois générations technologiques représentées.
Monsieur de Kharkov, je sais pas quel âge il a, mais il a eu toute une carrière. Bref, le podcast sera disponible demain matin, mais c'est un ancien ambassadeur. Puis lui, il a ses propres idées sur le conflit actuellement entre Israël, la Palestine ou encore le Hezbollah et
L'Iran.
L'Iran, excuse-moi. Okay. j'allais dire le Liban, mais le Liban aussi est impliqué, est impliqué là-dedans. Donc, ça sera disponible. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette politique internationale-là?
Hey, honnêtement, j'ai commencé à m'intéresser à la politique internationale avant la nôtre.
J'essaie de comprendre, moi, juste le système électoral américain. Des fois, je suis mêlé, puis toi, t'es déjà rendu l'autre bord.
À ta défense, c'est mêlant. Mais je sais pas, je pense que c'est le voyage au départ. Puis mon premier voyage à 14 ans, c'était en Tunisie. On s'entend que t'es dépaysé, puis à peu près. Puis autre culture, autre valeur. Déjà, il y avait un choc un peu d'idées conversationnelles, puis même un choc entre les sexes. Là.
Un choc de sexe?
Ben, t'aurais ri en masse me voir réagir à 14 ans envers quelqu'un qui te dit des propos assez vulgaires. Merci, parce que ben... C'est comme ça que ça se passait pour croiser une belle gazelle des neiges qui venait du Canada. Là. C'était comme ça qu'ils nous appelaient à ce moment-là.
Il y avait une approche différente, puis ils t'appelaient gazelle des neiges.
Des neiges, oui. Ben, je dirais que le choc culturel a été sur bien des points, mais...
Ça pogne-tu, mettons, en 2024, dire ça à une fille dans un bar? « Hey, gazelle des neiges, tiens, voici ton verre. »
D'après moi, ça dépend des goûts de chacun.
Mais admettons que c'est Joe Burrows qui t'appelle gazelle des neiges. Là.
Eh, Seigneur, ça se peut que je ris avant d'être charmé.
Ouais.
Ouais.
Mais ça te bloque pas, là.
Je ris avant d'être charmée, mais après, il faudrait qu'il y ait en ligne d'autres phrases un peu plus intelligentes, je te dirais.
Gazelle des neiges!
Mais ça m'a intéressée parce que le choc culturel y était, puis à partir de ce moment-là, ça a ouvert les vagues vers « Hey, attends un peu, là, comment ça se passe ailleurs? Comment on voit les choses ailleurs? » Toujours été tournée vers la différence pour plusieurs raisons dans ma vie. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a toujours un impact direct dans notre vie. Et ça, c'est fascinant. Je vais toujours me souvenir d'une entrevue que j'avais faite avec Jean-Luc Mongrain dans le temps. Tu te souviens, Jean-Luc Mongrain?
Les gros yeux.
Il y avait sang chaud, lui, puis il y avait...
Des... Comment s'appelait sa première émission? T'en souviens-tu?
Non.
C'était « Mon grain de sel
». C'est bon.
C'était capoté. C'était accès à ces images-là. Il devait peser 100 livres, puis la moustache devait, à elle seule, peser 30 livres.
Prends la moitié de ta
puis
face, oui.
Ses yeux pesaient 20 livres chaque. Écoute, c'était tout un personnage, puis il se promenait avec son café. Il parlait avec la caméra. Il brisait le mur, là, tu sais.
Il avait demandé à ses caméramans de le suivre, oui. Mais c'était pas conventionnel à ce moment-là.
J'entendais les caméramans rire.
Oui. Puis il avait dit, c'est correct. Les patrons n'étaient pas en accord de ce qu'il m'avait raconté avec ça. Puis il avait dit, vous allez me suivre. Moi, je vais bouger. Puis vous allez bouger. C'est assez les caméras statiques. Puis quand il a commencé à avoir une guerre en Afghanistan, il a fallu qu'il... Puis toute ma vie, je m'en souvenais. Peut-être qu'il y a un petit côté de mon caractère qui est venu aussi avec cette conversation-là, mais...
C'est pas un petit caractère, on s'entend?
Ben, moi, j'appelle ça divertichante.
Oui!
Ou attachante, OK?
Divertichante et
mais,
attachante.
Mais quand je suis convaincue de quelque chose, je vais essayer d'être le plus convaincante possible.
Oui.
Puis lui, il avait joué dans mon cerveau à ce moment-là. Et il avait dit à ses patrons, « OK, vous voulez pas parler de l'Afghanistan, vous voulez pas parler de cette guerre-là, vous voulez pas aller plus loin avec ça. » Il dit, « Ben le jour où le petit soldat Tremblay va revenir dans un sac zippé dans le cours de sa mère, vous allez trouver que l'Afghanistan, c'est plus près de chez vous que vous pensiez. » Fait que tout ce qui est international, pour moi, je résume par cette phrase-là qui n'est pas la mienne. Ça vient avec un lot d'investissement.
T'as copié Jean-Luc Mongrain?
Non, m'a influencé dans la manière de bien décrire pourquoi ça m'intéresse à ce point-là.
Tes yeux sont pas pareils quand tu me parles.
Non. Trouves-tu qu'ils sont grands et convaincants?
Ouais, on peut dire
toi,
ça.
Toi, c'est quoi ta relation par rapport à l'actualité internationale?
Ben écoute, je regarde ça, j'ai pas le choix nécessairement parce que je travaille dans un média, fait qu'il faut vraiment que je m'informe un peu, mais c'est pas le genre de choses qui m'intéresse tant. Moi, je regarde plus ce qui se passe à Québec, au Québec. Tu sais, je vais comme à Québec, au Québec, dans les autres provinces, au Canada en général, aux États-Unis, mais ben honnêtement... Mexique et l'international, c'est très tranquille.
Je te dis, Yannick, si jamais... Parce que je suis comme dans une prison avec toi. Là.
Ouais, t'as pas le choix.
Si jamais cette prison-là s'ouvrait, j'aurais été envoyé spécial.
Ah ouais?
Ah, c'était mon rêve médiatique.
C'était un appel à tous, mais pourquoi tu le fais pas?
Parce que c'est pas aussi facile.
Tu t'embarques sur TikTok là, avec une chemise...
Une GoPro.
Non, ça prend une caméra, une bonne petite caméra.
OK.
Ça te prend camisole noire.
OK.
Ouais.
Okay. Puis mettons le salaire. Là.
Ouais.
C'est toi qui vas.
Mais c'est TikTok.
OK. C'est TikTok.
Tu vas être rémunéré par TikTok.
C'est une façon de dire que tu es prêt à ce que je quitte le bateau. C'est un appel de prendre la
avis à tous! Pascal est disponible pour être un envoyé spécial. Dans les dernières heures, il y a des combats qui ont opposé, bien entendu, les troupes israéliennes au Hezbollah, dans le sud du Liban, où Israël a annoncé la mort de 8 soldats, les premiers tués depuis le début des opérations terrestres qui ont commencé lundi contre le mouvement islamiste qui est soutenu par l'Iran. C'est les dernières nouvelles. Le dôme de fer qui a connu quelques ratés, Mais j'imagine qu'on a envoyé une trolley de missiles là, pour essayer de passer au travers de ce fameux dôme de fer. Puis même les États-Unis qui ont été chargés d'empêcher tout missile qui se dirigeait vers Israël de toucher la cible.
Autour de 200, Yannick, missiles balistiques, c'est pas rien. On voulait pas manquer notre frappe.
Oui, mais on nous a toujours vendu le dôme de fer comme étant inviolable.
Mm-hmm. Israël, honnêtement, puis notre invité raconte bien tout ça, mais... a été développé côté intelligence artificielle, côté tout ce qui est web. Souvent, quand je parle avec un expert en technologie, Patrick, là, tu le connais très bien, là, on y parle souvent, ce qu'il dit, c'est qu'eux, il n'y a rien qui va passer en dessous de la couverture. Eux, ils ont décidé de prendre le train au bon moment et ils se sont développés comme étant des experts au niveau intelligence artificielle, en niveau de cybersécurité, en niveau de cyberpiraterie, si tu veux, pour intégrer plein de logiciels à travers le monde. Fait qu'autant sur place, une façon de se protéger physiquement, bien, il y a une façon de se protéger du côté technologique. Et ça, dans cette ère moderne-là, c'est assez fascinant et inquiétant en même sens.
Oui, exact. Puis tantôt, Kharkov disait, la Jordanie qui est juste à côté d'Israël n'est pas ben inquiet, même s'ils voient les missiles passer au-dessus de leur tête. Tu y penses-tu, Pascal? Pense-y 30 secondes, là, à quel point les gens qui sont en Jordanie, là, qui entendent les missiles passer au-dessus de leur tête, à quel point ça doit être drôle, leur vie. Là.
Oui, mais en fait, c'est même pas l'inquiétude qui visait, c'est...
Ah, ben c'est pas nous autres.
Marcher sur des œufs.
Ben oui.
De pas vouloir dire trop, de pas vouloir bouger trop, de pas vouloir, en fait, entrer dans ce dit conflit-là pour pas que ça dépasse leur propre frontière. Mais ça te parcourt le ciel, là, au-dessus de ta tête. Tu peux être un peu inquiet, c'est sûr. Hey, les gens qui sont allés dans les bunkers du côté d'Israël quand il y a eu le début des frappes balistiques là, de l'Iran, là, écoute, mais c'est aussi ça, c'est fascinant à quel point ils sont préparés. Tu te poses pas la question. Je...